VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorsil. Quelques milliers d'Irakiens ont manifesté ce dimanche dans plusieurs villes d'Irak contre les frappes occidentales en Syrie. C'était à l'appel du leader chiite Muqtada al-Sadr. Certains ont brûlé le drapeau américain. Il faut dire que les retombées des attaques conjuguées des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi continuent de faire l'actualité. Washington a promis d'intervenir à nouveau en cas de nouvelles attaques chimiques et a adressé une mise en garde à Moscou et Téhéran et a promis de poursuivre sa campagne également par des biais diplomatiques et économiques. Demain lundi, l'administration de Donald Trump doit annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie en lien avec l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien parce que Moscou soutient politiquement et militairement Bachar al-Assad. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a fait l'annonce aujourd'hui. Les frappes de ce week-end en Syrie ont visé exclusivement des installations liées, selon les Occidentaux, au programme d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a averti dimanche que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie provoqueraient le chaos dans les relations internationales. Et c'est bien sûr après cette attaque menée de vendredi à samedi, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé les attaques contre Bachar al-Assad, mais cela n'a pas plu à la Russie. Il y a une semaine, il y a eu une attaque chimique présumée dans la ville syrienne à la rebelle de Douma et ça a été imputé aux forces gouvernementales. Donald Trump a déclaré « mission accomplie » sur Twitter. Et ce dimanche, il a justifié l'emploi de cette expression. Et après qu'on l'a critiquée, ces critiques ont rappelé par exemple l'annonce prématurée et par le président George W. Bush de la fin de la guerre en Irak. Et Trump avait ajouté samedi que le résultat de l'opération, parfaitement exécutée, n'aurait pu être meilleur. D'autres analystes, il faut le dire, ont fait remarquer que dans le cas actuel, l'objectif n'est pas de gagner une guerre, mais d'atteindre des cibles limitées et précises. Donc le président Trump n'est peut-être pas allé trop loin en tweetant « mission accomplie ». Le roi Salman d'Arabie Saoudite a placé la question de Jérusalem et l'attitude agressive du rival iranien en tête des priorités arabes à l'ouverture du sommet des dirigeants arabes dans le royaume saoudien. Le souverain n'a pas évoqué le conflit en Syrie après les frappes de ce week-end. L'ex-patron du FBI, James Comey, sera sur la chaîne ABC ce soir dans un entretien qui suscite pas mal de commentaires. L'ancien chef de la police fédérale a révélé que sa décision d'annoncer 11 jours avant l'élection de 2016 la réouverture de l'enquête sur l'usage par Hillary Clinton d'un serveur privé d'email lorsqu'elle était secrétaire d'État, eh bien cette décision avait été motivée par sa volonté de faire en sorte que la victoire attendue de la candidate démocrate soit perçue comme légitime par le public. Donc, Comey croyait que Mme Clinton allait battre Donald Trump à l'élection de 2016. Donald Trump a réagi aujourd'hui. Il a dit Comey voulait seulement un travail. Il est un détraqué et il passera dans l'histoire comme le pire directeur du FBI. L'intégralité de l'entretien, c'est ce soir sur la chaîne ABC. Vous écoutez VOA Afrique émettant de Washington DC. Un nouveau candidat dans la course à la présidence au Cameroun, il s'agit de l'ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat Maurice Kamto. Il vient d'être désigné candidat par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC est réuni en congrès depuis vendredi. La France a annoncé ce dimanche qu'une quinzaine d'assaillants ont été tués lors de l'attaque qui visait à prendre le contrôle du super camp de l'ONU et de la force française Barkhane samedi à Tombouctou, dans le nord du Mali. Selon les derniers bilans, un casque bleu a été tué et une dizaine blessés. 7 militaires français ont également été blessés. Ils ont été pris en charge par les structures médicales françaises à Gao, à quelques 320 km à l'est de Tombouctou, selon l'état-major français. Les Sud-Africains ont rendu un dernier hommage à Winnie Mandela, l'une des personnalités les plus éminentes du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud et députée de 2009 jusqu'à sa mort en début du mois. Ses funérailles officielles ce dimanche à Soweto ont été suivies par près de 40 000 personnes. Restez branchés sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Vous êtes en compagnie d'Eric Manirakidza dans ce dialogue des religions. Aujourd'hui, nous parlons de la relation entre la religion et l'État. En France, le président Emmanuel Macron a promis de réparer le lien entre l'Église catholique et l'État, soulignant que la laïcité n'a pas pour fonction de nier le spirituel. Que pensez-vous de la laïcité dans vos pays respectifs? Comment se présentent les rapports entre l'État et les différentes confessions religieuses? Existe-t-il une quelconque méfiance à l'égard des religions? C'est l'occasion pour exprimer votre point de vue. Vous pouvez aussi nous appeler en direct sur le +1 202 205 26 33. Eric Manirakidza, encore une fois avec vous. Nous avons un invité qui est ici aux États-Unis, c'est monsieur Ismaël Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo.
Bonsoir.
Voilà, vous avez suivi le 9 avril les évêques de France au collège des Bernardins. Ils ont accueilli le président Emmanuel Macron et le chef de l'Élysée a redessiné les contours des relations entre l'Église et l'État. Il a encouragé l'engagement des catholiques dans la société. Je le cite, « Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. De l'Église, je n'attends pas de leçons, une sagesse d'humilité. » Que pensez-vous de ces propos, monsieur Diallo?
Je voudrais tout d'abord préciser que je suis l'actualité française comme toutes les autres, pas davantage.
Et c'est un pays que vous connaissez très bien.
Oui, que je connais un peu, oui. Mais comme beaucoup de Français, je présume, ces propos m'ont un peu surpris. Y a-t-il une crise entre l'Église et les Français ou l'Église et l'État français au point où cela nécessite une intervention, une invite du président à l'implication plus grande de l'Église dans la vie, j'allais dire, politique? Ceci paraît un peu curieux. Ceci dit, c'est une lutte, mais c'est un débat permanent de la place de la religion dans un État, à moins que cet État se définisse comme un État religieux. Mais un État qui se définit laïque doit chaque fois être en alerte pour ne pas nier certes la religion et pour ne pas également que la religion prenne le pas et guide la marche des affaires de l'État.
Oui, nous avons un commentaire d'une Française qui dit, elle s'appelle Carole Duprat, et dit « En tant que Française vivant en France, je pense que la laïcité est la solution la plus juste envers tous et pour respecter les idées de chacun. Ici, l'État ne doit pas prendre parti et les signes religieux sont bannis. Pour ce qui est de la déclaration du chef de l'État, je pense qu'il essaye de lier des relations avec chaque religion. Ces déclarations ont été les mêmes avec les musulmans et les juifs afin de contrer l'ambiance tendue que nous vivons actuellement. Pour moi, la stratégie est la bonne. Il faut essayer de composer avec chacun pour que tout se passe au mieux. Et dans notre pays, à manque de patriotisme, nous avons besoin d'un chef qui nous rassemble. C'est le seul commentaire que nous avons qui nous vient de la France. Est-ce que vous avez beaucoup plus de clarifications, monsieur Diallo?
Je dirais simplement pour ma part que j'ai un avis peut-être iconoclaste sur cette question. J'estime que la religion est une affaire personnelle, individuelle. Je ne suis même pas un adepte de la propagation d'une religion. Je mets à la disposition de mes enfants tous les écrits religieux. Je les incite à lire le maximum possible. Mais je ne veux pas que mes enfants prennent ma religion parce que je suis leur père. J'estime que un enfant qui prend la religion de ses parents a moins de mérite qu'un autre qui choisit sa religion. Mais encore une fois, je m'abstiens vraiment de rentrer dans ce débat-là parce que malheureusement, la plupart du temps, quand vous traitez de questions religieuses, vous n'avez pas en face de vous un esprit ouvert et apte à accepter la contradiction et la différence. Très souvent, les personnes vous diront « Vous n'êtes pas de ma croyance, vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc vous avez tort, donc vous êtes contre moi. » Et c'est dommage. Alors, encore une fois, je suis perplexe que le président français ait eu besoin de soulever ce livre. Je ne sais vraiment pas pourquoi.
Oui, gardez la ligne, messieurs Diallo. On va recevoir quelques auditeurs. On commence par Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs de la VOA.
Voilà, nous parlons de la laïcité. Comment cette question se présente chez vous dans votre pays, des rapports entre les confessions religieuses et le gouvernement?
Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que, comme beaucoup de gens le savent, le Mali est un pays laïque reconnu par la constitution malienne. Les chrétiens, les musulmans, même s'il y a des juifs, très peu, je pense qu'ici, il n'y a pas de minorité ou de majorité. Les gens vivent en communion ensemble, même pendant les fêtes, que ce soit des Pâques ou des Tabaski. Les gens se côtoient, ils assistent. Les musulmans peuvent assister souvent aux fêtes de Pâques pour dire aux chrétiens, même on se souvient tout récemment à la fête de Pâques qui vient de se dérouler, le ministre Tierno s'est rendu auprès de nos frères, de nos amis chrétiens pour le faire pas du fait que le Mali est un pays uni, est un pays indivisible, est un pays où les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble. Il est allé prôner ce message-là et même lors des fêtes de carême de Ramadan, il s'y présente aussi pour dire aux gens que le Mali est un pays laïque et que tout le monde doit vivre dans un pays tel que le Mali et que quelqu'un ne soit pas saboté ou qu'une région quand même ne soit pas sabotée de mon point de vue.
Brahima, est-ce qu'en dehors de ces fêtes religieuses, le président de la République notamment, est-ce qu'il rencontre les leaders religieux?
Bon, le cas spécifique du Mali, généralement, je vois le président s'exprimer surtout lors des fêtes de Ramadan ou de Tabaski. Mais en ce qui concerne les fêtes de Noël ou Pâques, bon, ça, je n'ai pas vu, mais je pense que cela est fait à travers les ministres du culte et le ministre de l'information, de mon point de vue. Bon, ce qui concerne Cameroun, il a si bien dit le message du président. Je pense qu'il quand même, il doit quand même prôner ce message de vivre ensemble entre les chrétiens et les musulmans, puisque cela est reconnu par les chrétiens. Et je pense que cela est vu à travers son ministre Tierno quand même, qui trime pour que cela soit. Et tout le temps, quand il y a des fêtes du côté des musulmans ou des chrétiens, il s'y rend. Et comme il a si bien dit, il y a très peu de juifs au Mali. Bon, très rarement, j'entends quand même parler des juifs.
Merci à Brahima Doumbia pour votre contribution. Nous avons également Yao Marcelin. Yao, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous de la Ville d'Afrique.
Je vous écoute, Yao.
Bon, ce sujet, c'est un sujet très, très, très important en ce qui concerne la laïcité. En Côte d'Ivoire, pratiquement tous les chrétiens et les musulmans vivent en parfaite symbiose. Au niveau même des lois, nous appliquons les lois de la République. Donc, on n'a pas, à ce niveau, il n'y a pas de confrontation entre d'un côté les lois religieuses, les lois musulmanes et les lois chrétiennes. Nous appliquons les lois de la République. Donc, au niveau de ce côté, la laïcité est vraiment, elle est effective. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Généralement, les conflits naissent au niveau de l'application des lois. Parce que quand il y a un État où la laïcité n'est pas réellement ancrée, d'autres ont tendance à appliquer les lois, les lois de l'islam pour les musulmans et les lois chrétiennes pour les chrétiens. Or, dans ce cas, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce problème-là. Nous appliquons tous les lois de la République. Donc la laïcité est une réalité en Côte d'Ivoire. Et au niveau même de la vie active aussi, les chrétiens et les musulmans, vraiment, il n'y a pas d'animosité. On sent une parfaite cohésion, on sent que réellement tous convergent vers tous appliquent les lois religieuses, c'est-à-dire que l'élévation de l'homme au niveau spirituel. Une fois que vous adoptez, vous êtes ancré dans les lois religieuses, normalement il ne doit pas avoir de conflit à ce niveau. Généralement, si vous adoptez le même Dieu, vous priez le même Dieu, il ne doit pas avoir de conflit à ce niveau.
Yao, est-ce que au niveau de l'autorité, au plus haut sommet, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des rencontres ou carrément un dialogue avec les leaders religieux?
Bon, les dialogues généralement se font en temps de crise, généralement en période de réconciliation, comme la Côte d'Ivoire sort d'une crise vraiment qui a beaucoup affecté le pays. Généralement, les rencontres s'inscrivent dans ce cadre-là. C'est une rencontre vraiment dans le cadre de la réconciliation. C'est-à-dire qu'inviter les guides religieux vraiment à prendre le pardon, vraiment, c'est un peu dans ce sens-là. Nous, comme la Côte d'Ivoire, un pays vraiment qui ne connaît pas de conflit religieux, il n'a jamais connu de conflit religieux dans ce domaine-là. Donc, généralement, les politiques n'interviennent pas trop. C'est juste que non, mais c'est en période de crise. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent faire de la récupération. Parce que la crise qu'il y a quand on est en Côte d'Ivoire, c'est une crise qui n'a rien à voir, qui n'a pas de connotation religieuse, qui n'a rien à voir. Mais il y a certaines personnes qui ont voulu faire de la récupération religieuse. Voilà, donc souvent, de temps en temps, le politique intervient pour recadrer un peu, pour recentrer le débat. C'est un peu souvent. C'est vraiment rare.
Merci. Merci Yao pour votre contribution. Nous avons Steve Boko. Bonsoir Steve. Je vous écoute.
Ah oui, bon, je vois très bien que mon prédécesseur a tout dit, parce que ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le problème de la laïcité. Parce que nous vivons en symbiose et même en convivialité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, le chef d'État fait beaucoup de son mieux. Même des fois, même il essaie de véhiculer les informations, c'est-à-dire les règlements religieux dans les divers canaux, les jeudis, vendredis, dans les divers canaux du pays, c'est-à-dire les canaux de la radio et même de la télé, souvent en vue de mieux enseigner la population sur les règlements qui sont mentionnés dans les canaux divers. Bible courant. Donc le chef d'État et même nos frères religieux respectent correctement. Nous n'avions pas ces soubresauts dans ce pays. Et que nous continuons, mais nous encourageons l'État à continuer dans ce sillage. Parce que sans les principes de la Bible et du Coran, aucune nation ne peut connaître son essor. Après, sans la paix, rien ne peut aller. Donc, je félicite beaucoup les autorités de ce pays. Et je pense même que cela aussi se reproduit un peu dans les divers pays africains. Parce que j'ai fait tout aussi sur le Bénin, le Togo. J'ai vu que le chef d'État de ces pays aussi font la même chose. Parce que si nous prenons le Bénin en général, il y a une fête spécialement appelée Donkor où les nordistes font cette fête que le chef d'État même se déplace spécialement vite pour aller véhiculer même le message de la paix et même de cohésion sociale dans ce pays, dans cette localité et même dans le pays en général. Donc pour cela, j'encourage beaucoup les chefs d'État africains de continuer dans ce volet en vue de pouvoir consolider la paix et la cohésion sociale dont nous cherchons sur le continent, car rien ne vaut que la paix.
Merci à Steve pour votre contribution. Aruna Traoré, il est au Mali, il dit « Si on considère la religion comme un facteur qui prône le respect, la tolérance, etc., la France a une culture judéo-chrétienne où la laïcité est la pratique de toutes les religions monothéistes ou polythéistes. Chez moi, ici au Mali, plus de 90% de la population est musulman. D'autres religions cohabitent, mais actuellement, il y a même un ministère du culte. Maintenant, la séparation de l'Église et de l'État a été effective en 1905, mais cette laïcité a été effective. Maintenant, il parle de la Turquie, de Mustafa Kemal dans les années 1925. Je reviens vers vous, monsieur Diallo. Vous avez habité dans plusieurs pays africains dans le cadre de vos différentes fonctions. Vous avez suivi beaucoup de situations. Est-ce que y avait-il, par exemple, des rencontres systématiques ou ponctuelles entre les chefs d'État et les leaders religieux pour essayer de recadrer la situation? Après tout, l'État doit gérer la société. En Côte d'Ivoire, on dit que c'est seulement en temps de crise qu'on voit son genre de dialogue, mais le dialogue est toujours nécessaire, même en période de paix.
Oui, sur la Côte d'Ivoire, je n'ajouterai rien de ce que les deux ou trois Ivoiriens ont dit, parce que c'est juste, la société ivoirienne a su rester homogène. Et ça risque de dérive religieuse jusqu'à présent, ce qui est une excellente chose. On se percevait ou on se perçoit plus par région que par religion en Côte d'Ivoire. Et pour le Mali, les Maliens ont insisté sur le caractère laïque du pays. Oui, c'est vrai. De par la constitution, de par les lois et règlements, le Mali est un État laïque. Mais il ne faut cependant pas passer sous silence l'influence des religieux musulmans. On se rappellera que quand le gouvernement a été à proposer un nouveau texte sur la loi de la famille, le leadership musulman s'est élevé et a mis les gens dans la rue contre le projet. Parce que selon eux, ce projet différait ou serait contre les lois et pratique les us et coutumes islamiques. C'est donc une attention particulière qu'il faut porter à chaque instant. Sur mon pays, le Burkina,
qui est à majorité musulman.
Qui est à majorité musulmane, mais cela ne se sait pas par beaucoup de gens. Parce que jusqu'à présent, c'est une question qui ne se posait pas au Burkina de savoir si quelqu'un est musulman ou chrétien ou autre chose. Mais on constatera dans nos quartiers, auprès de nos voisins, que de plus en plus de musulmans ne se rendent plus au fait chez leurs voisins chrétiens, aux fêtes chrétiennes, à Pâques ou à Noël, ce qui se faisait tout le temps avant. Les musulmans allaient chez les chrétiens allaient chez les musulmans aux fêtes religieuses. Mais de plus en plus de musulmans ne vont pas chez leurs voisins aux fêtes chrétiennes. Pourquoi ? Parce que des prétendus prédicateurs leur disent que c'est un péché d'aller fêter Noël, d'aller fêter Pâques avec les chrétiens. Alors, c'est pourquoi il faut faire très attention et ne pas prendre cela pour blanquette, pour garantie. Parce que c'est un peu comme la démocratie, hein. C'est pas parce qu'on fait des élections qu'on est en démocratie. Pour les autres pays, un pays qui est extraordinaire du point de vue convivialité religieuse, c'est la Sierra Leone, par exemple. Dans beaucoup de familles sierra léonaises, vous avez des chrétiens pratiquants et des musulmans pratiquants. Et les Sierra Leonais s'identifieraient un peu plus par ethnie et par région, et presque jamais par religion.
Nous avons un commentaire de la RDC. Dans mon pays, la RDC, c'est Gauthier qui parle. C'est tout à fait catastrophique. Les relations entre l'État et les laïcs catholiques, c'est plus qu'une guerre maintenant avec le parti au pouvoir. L'Église catholique est vue comme un ennemi au regard de la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, c'est ce qu'il dit. Il y a Diallo Tcherno qui est en Guinée, il dit « Moi, je pense que la laïcité n'existe que sur le papier. En tout cas, moi, personnellement, je ne connais pas un pays qui est laïque d'une manière effective. » Et nous avons entendu ce week-end au Burundi, l'Église catholique qui a fait une mise au point par rapport aux contributions que le gouvernement est en train de demander pour les élections de 2020, eh bien l'Église catholique qui renvoie les autorités à s'adresser aux évêques catholiques. Et là, la conférence des évêques catholiques a aussi mentionné que la contribution de l'Église n'est pas de caractère pécunier, mais que leur contribution, c'est l'apaisement des cœurs, qu'ils ont des écoles, qu'ils ont aussi des centres de santé, etc. Monsieur Diallo, vous connaissez aussi ces deux pays. Vous avez quelque chose à mentionner. Monsieur Diallo? Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes là?
Allô?
Oui.
Allô?
Oui, vous maintenant je peux vous entendre.
Vous m'entendez?
Je vous entends.
Ok. Oui, je disais que sur la RDC, il est difficile de comprendre que l'Église reste à fond sur la situation qui perdure. Il faut bien qu'elle s'exprime. Ce n'est pas en cela qu'elle s'immisce dans les affaires politiques et de gouvernance du pays. Rester à fond et ne rien dire serait une sorte de complicité tacite de la chienlit qui s'est installée dans ce pays.
Et de la complaisance. Gardez la ligne, je prends Diarra Kanyomé juste pour une minute et je reviens vers vous avant de conclure. Diarra Kanyomé?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute. Vous avez une minute. Oui.
Ok, merci d'avoir de m'appeler, Eric. Je vous annonce mon mariage sera le 29 avril 2018. Donc, à mon avis, je pense que vraiment ce sujet est très intéressant. Donc, je pense que vraiment, surtout, je prends un exemple comme dans mon pays, le Mali, je pense que vraiment la communauté musulmane, ils ont là, le président des communautés musulmanes, c'est Mouad Diko, je pense que vraiment il travaille beaucoup de choses par rapport à la religion musulmane, par rapport à l'État même. Lui, avec l'État, il fait beaucoup de choses. Donc, depuis l'année 2003, depuis la guerre venue au Mali jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il est en train de travailler avec le gouvernement pour que la paix n'a pas venu dans le monde, ou bien la paix n'a pas venu comme au Mali. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, c'est une bonne initiative pour lui, à mon avis.
Merci, Diarra, et bonne soirée chez vous. Monsieur Diallo, vous alliez parler du Burundi. Je vais rajouter cette phrase de Macron qui s'adressait aux catholiques en disant « Je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre la nation. Nous savons tous que le travail que vous accomplissez n'est pas un pis aller, mais le ciment même de la cohésion nationale. »
Oui. Allô?
Allô, oui, je vous entends.
Oui, que ce soit en RDC ou au Burundi, d'abord l'Église catholique ou toute autre entité organisée, comme tout citoyen individuellement, ne devrait pas se taire et ne rien dire, en estimant être indifférent ou ne pas être concerné. Tout le monde est concerné par la gouvernance d'un pays. Deuxièmement, que ce soit donc au Burundi comme en RDC, ce n'est pas parce que l'Église se prononce qu'elle doit être taxée d'être contre le gouvernement ou contre l'autorité. Non, elle donne son point de vue. On doit être pas indifférent, on ne peut pas être indifférent. On n'a pas de parti pris, mais il faut donner son avis, et ce qui est important. Et dans une situation de crise, il y a bien entendu quelqu'un qui peut avoir moins raison qu'un autre. Mais c'est ainsi que vit la société.
Merci, Monsieur Diallo, pour votre contribution et votre disponibilité dans ce dialogue des religions. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Merci à tous ceux qui ont contribué sur notre page Facebook. Eric Madirakiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.